Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Aujourd'hui, les chemins de traverse nous amènent jusque dans les clairières encore humides de la forêt. Une forêt qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Mais au fil des années, des découvertes plus étonnantes les unes que les autres ont vu le jour. Des chercheurs ont par exemple établi un lien entre le chant des oiseaux et la croissance des arbres. Il semblerait que plus les oiseaux chantent, plus les arbres poussent. D'autres études ont démontré que les arbres s'entraidaient entre eux. Deux arbres situés l'un à côté de l'autre essayent de ne pas se gêner avec leurs branches en grandissant. A l'inverse, ils entremêlent leurs racines pour s'assurer une meilleure stabilité en cas de grand vent. Les découvertes sont encore plus étonnantes quand il s'agit du lien qui unit les arbres et les hommes. En 1984, des chercheurs ont découvert que les patients qui avaient une fenêtre avec vue sur l'extérieur guérissaient beaucoup plus rapidement que les patients qui n'avaient pas une telle vue. Après toutes ces découvertes, notre regard, à nous les humains, sur la forêt et ses pouvoirs a évolué au fil des années. Erwan Kavarek, lui, va encore plus loin. Erwan Kavarek n'est pas un chercheur. C'est un arboriste grimpeur, à l'âme poétique et au regard enchanté.
On avancerait un petit peu.
Mmh. Ouais.
On nous invite à nous enfoncer dans la forêt. Tiens, on peut même aller. Oh, il est beau. Oh. J'étais un enfant proche de la nature. C'était mon repère en fait. J'avais besoin d'y passer beaucoup de temps. J'ai eu de la chance parce que mes parents habitaient à la campagne. Sur la commune de l'Opérette. Donc j'ai bien connu la vallée du Glanvais, sa petite rivière, et puis tous les écosystèmes qui l'entourent. Grâce à cette enfance, j'ai pu prendre conscience assez vite en fait, de l'importance de peut-être vouloir préserver l'environnement et les arbres qui s'y trouvent.
Est-ce qu'il y a un arbre marquant dans votre enfance ?
Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Il y a un verger dans lequel je passais beaucoup de temps en toute saison. Donc des pommiers. J'ai été très relié aux pommiers assez jeune. Après, il y avait mes arbres à cabane, forcément. Des saules, des chênes, des lauriers-palmes, des fois. Il y a un châtaignier aussi auquel j'ai au pied duquel j'ai passé beaucoup de temps. Bon, il m'a servi, son tronc me servait de cible pour mes flèches, mes lancers de hache ou de coupe-coupe. Enfin, voilà, j'ai eu plusieurs arbres, ouais, qui avaient tous des rôles assez précis, en fait. Il y a un chemin qui descend là, est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on reste là?
Plus par là.
Okay.
Est-ce que la nature, elle représentait pour vous?
Il y a eu une évolution. Je pense que le mot numéro un qui me vient, c'est repère. C'était vraiment un repère.
Ouais.
Et puis un lieu d'exploration. Et d'enseignement. Mais ça, je le dis avec le regard d'adulte que j'ai aujourd'hui. À l'époque, je ne savais pas que j'étais en cours d'initiation.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris enfant là-bas ?
À observer les oiseaux. Observer les feuilles, observer les saisons, les cycles, les couleurs, les températures. Enfin, voilà, quand on passe son temps dehors et qu'on rentre trempé été comme hiver, on apprend énormément de choses sur son corps, sur la résistance au chaud, au froid, la hauteur, le dépassement de soi. En fait, c'est énorme tout ce qu'on peut apprendre dans la nature.
Enfant, vous étiez aussi très proche des animaux.
Oui. Il y a Polo, que je suis obligé de citer, qui est arrivé en même temps que moi, à peu près, sur Terre. Et donc, il est parti pour le grand voyage à 13 ans. Donc, de ma naissance à mes 13 ans, j'ai eu la chance de grandir avec ce chien, avec un Doberman, qui était vraiment mon meilleur pote, je pense. Il y a eu quelques chèvres, des chèvres alpines. Dont Candy, qui a été, pareil, une amie très très proche, qui m'a appris plein de choses.
vous aviez une relation particulière avec elle qu'on a rarement avec, avec ce type d'animaux.
Ouais, ouais, ouais. Je passais beaucoup de temps avec elle. Elle aussi, elle m'a appris à observer les plantes, là où elle allait dormir, l'approche d'un chien. Enfin, je voyais dans son regard plein d'attitudes différentes. Et ça aussi, c'était des enseignements. J'ai eu beaucoup de chance d'être au contact de ces animaux qui étaient aussi des amis. C'était des très bons amis.
Cette âme d'enfant, vous l'avez toujours avec vous ?
Ouais, elle grandit. Elle grandit encore. Ouais, je pense qu'on est invité en tant qu'adulte. C'est peut-être ça le combat, entre guillemets, d'arriver à devenir adulte en gardant son âme d'enfant. À savoir s'émerveiller de toutes ces choses-là, une feuille qui tourbillonne dans le vent, aller pêcher ou chasser des têtards pour faire des obsèques. Enfin, ouais, quand on devient adulte, des fois on lâche tout ça. Enfin, je me rends compte depuis que j'organise des sorties que plein d'adultes sont coupés de ça parce que justement on est devenu grand. Attention, on va pas se salir, c'est pas sérieux. Enfin, il y a plein de conditionnements en fait qui fait qu'on se coupe de notre enfant. Et bah pareil, la nature pour ça c'est génial parce que on revient vite, on replonge vite dans son enfance grâce à la nature.
Ah ouais, à gauche.
Ouais, il y a un appel.
Un appel. Ouais. C'est... on dit comme ça quand on ressent il y a un truc à l'intérieur qui nous dit ah ouais, c'est chouette d'aller par là.
Ok.
Un peu, c'est l'intuition en fait. C'est ouais. Comme quand tu rencontres quelqu'un, tu dis ah lui je le sens pas trop, je le sens. Ouais. Ça, c'est un peu le même principe.
Ça, c'est l'enfant intérieur, tu vois. L'adulte, il va être là, non, un plan, un protocole, faut suivre la carte. L'enfant, en plein milieu de tout, tiens, on va par là, pourquoi ? J'en sais rien, on y va. C'est beau de savoir écouter ça.
Vous êtes devenu par la suite un arboriste grimpeur. Qu'est-ce que c'est un arboriste grimpeur ?
Eh ben, c'est un métier qui consiste tout simplement à entretenir les arbres. C'est des soins, souvent par la taille ou l'abattage d'arbres. En fait, il y a une formation de bûcheron qui est inclus dans cette formation d'arboriste grimpeur. Avant de grimper dans un arbre, on doit s'assurer de connaître les outils nécessaires à l'appréhender, dont la tronçonneuse est un des outils principaux. L'arboriste grimpeur soigne aussi. Depuis quelques années, il y a des techniques de perfusion. On peut perfuser un arbre pour lui injecter des produits, des huiles essentielles, pour aider son système immunitaire. Les arbres sont réceptifs au magnétisme aussi. Donc en fait, arboriste grimpeur, il y a une formation qui existe. Mais après, j'ai fait plein d'expériences personnelles, on va dire, pour me rendre compte que les arbres sont... Voilà, il y a un support dans lequel on va grimper. C'est un support vivant et qui en plus nous appréhende. Qui sait qui on est. Ce qui m'a amené à me pencher sur l'arbologie.
On va y revenir tout à l'heure à l'arbologie, mais vos débuts... En tant qu'arboriste grimpeur, ils n'ont pas forcément été faciles pour vous ?
Non. Non, parce que... Bon, déjà, il y a l'aspect physique. On découvre des muscles dans son corps. Le fait de grimper dans un arbre, c'est très physique, en fait, comme métier. Donc, si on n'a pas une alimentation et une hygiène de vie adaptée, on peut vite renoncer ou développer des souffrances physiques. Moi, dans mon cas, ça a plus été l'aspect psychologique et émotionnel. Parce que beaucoup d'entreprises dans lesquelles j'ai travaillé n'avaient pas cette conscience aussi poussée. Beaucoup d'arboristes grimpeurs savent qu'on travaille sur du vivant. Mais de là à intégrer les élémentaux ou ce qu'on appelle le petit peuple, C'est une fibre ou une intuition que j'avais très jeune. Et ça m'a coûté cher parce que c'est pas du tout considéré pour l'instant en Occident. Enfin, peu, trop peu à mon goût. Et donc, on s'est souvent moqué de moi, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a fumé ? Enfin, c'est pas possible, tu peux... Et donc, ouais, il y avait un aspect brutal dans le début de ma carrière où je comprenais pas pourquoi on puisse faire ce métier sans cette conscience-là, en fait. Il y avait des incompréhensions, ouais, que je cherche encore à étudier. Ouais.
Oh là là, regarde les lumières, là. Là, on change d'écosystème, c'est plus pareil, tu vois. Bah là, on arrive dans une parcelle de résineux. Il y a des pins, il y a des sapins. C'est plus acide. Il y a des fougères, on le voit avec la calune, là, il y a des bouleaux. Donc en fait, il y a toute une végétation bio-indicatrice, on appelle ça, qui nous permet de savoir que le sol est acide, parce que ces plantes-là poussent en milieu acide. Et puis dans les plus grandes forêts, c'est plus visible, là, c'est pas très palpable, parce que c'est un îlot, en fait, on voit que de nouveau là-bas, c'est vert. Mais là, il y a un îlot de résineux. Quand les parcelles sont plus grandes, eh ben on change, on sent l'atmosphère changer. C'est pas les mêmes oiseaux, c'est pas les mêmes odeurs. Du coup, c'est intéressant de faire des longues balades de plusieurs heures en forêt, comme ça, quand on change d'îlot et de parcelle, parce que ben, on perçoit les différentes ambiances, en fait. Il y a des familles différentes, des couleurs différentes.
En quoi l'action humaine, elle est nécessaire ? Est-ce que la nature, elle se débrouille pas mieux toute seule ?
Ben, c'est un métier qui s'est développé dans un premier temps par rapport à la... Il y avait deux aspects. Il y avait l'aspect sécuritaire et l'aspect ornemental. Et c'est cette deuxième facette qui a fait exploser le métier, on va dire, avec une adaptation du matériel, des harnais, des cordes, des sécateurs, des scies, qui nous permettent d'accéder dans toutes les parties d'un arbre pour le rendre beau, pour le mettre en valeur. Et l'aspect sécuritaire, bah, pour préserver son environnement, les voitures, les biens voilà, matériels, humains. Voilà, pour toutes ces raisons, des fois, il est nécessaire d'intervenir. La nature se débrouille très bien sans nous, et j'en suis intimement convaincu. Sauf qu'aujourd'hui, on fait des routes, on fait des maisons, il y a l'étalement urbain, il y a plein de choses. L'être humain est en train de s'étaler sur Terre et de gagner sur son environnement. Et du coup, les arbres se retrouvent confrontés à des nouveaux contextes, des nouveaux courants d'air, des nouvelles lumières, des axes filaires, routiers, etc. Et donc, on a besoin de les aider, de les accompagner. Et le métier d'arboriste grimpeur répond à pas mal de ces attentes.
Ouais. Est-ce que vous pourriez nous parler d'une expérience de soins que vous avez fait sur un arbre ?
Ouais, en 17 ans, j'ai eu la chance déjà d'avoir des contextes très très différents. Abattre un arbre malade, ça peut être considéré comme un soin. Un arbre malade ou disharmonieux ou qui était... peut-être massacré par des lignes électriques ou des interventions humaines aussi. Dans certains cas, il y a des arbres qui demandent à être enlevés, qu'il est nécessaire d'enlever du paysage. C'est une forme de soin. C'est une forme de soin pour la terre. Pour un arbre qu'on va considérer qu'il est important de garder dans son environnement, il y a des techniques d'aubanage, par exemple, qui permettent de retenir des branches trop lourdes ou avec des faux mécaniques. La mise en place d'un auban va permettre de structurer l'arbre pour l'aider à rester dans le temps. Après une taille d'allègement ou après une tempête, par exemple, depuis quelques années, il y a des coups de vent très violents en pleine feuillaison. S'il y a une partie du houppier de l'arbre qui est vrillée, on va pas laisser les branches en suspens. Si c'est au-dessus d'une route ou d'un... Voilà, faut grimper dedans, faut aller s'ancrer, s'assurer, et puis couper ces branches-là, réduire le nombre de plaies. Après, moi, derrière, j'utilise des baumes cicatrisants, je travaille avec un apiculteur qui fait un baume à base d'huile, de propolis, etc., plein de minéraux, en fait, pour reminéraliser une plaie. Ce baume est hydrofuge, donc ça permet à la plaie aussi d'éviter de s'infecter trop vite.
Il y a une rencontre qui a été primordiale dans votre parcours, c'est celle avec Pierre Capelle. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Pierre Capelle ?
Oui, oui, oui. Rencontre très très forte, effectivement, en 2013. Dans le Lot, Pierre Capelle, c'est un arbologue.
Qu'est-ce que c'est l'arbologie ?
Ben, logos, c'est la communication. Donc en fait, l'arbologie, c'est la communication avec les arbres. Alors Pierre Capelle, c'est un guérisseur de campagne, comme on en trouve un peu partout, qui utilise la radiesthésie, le pendule. Et donc, il s'est rendu compte, il y a plus de 25 ans, que les arbres l'aidaient dans son travail de guérison. Quand des patients, des clients venaient chez lui pour différents maux, il ressentait de l'aide des arbres. Et un jour, il a voulu créer l'expérience d'emmener quelqu'un en forêt, un rugbyman vraiment très très abîmé par son sport. Et il s'est passé ce qu'il a nommé par la suite une mise à l'arbre. Donc le sapin et le rugbyman sont rentrés en résonance. Et à partir de cette époque-là, il a voulu faire des travaux de recherche pour essayer de comprendre pourquoi les arbres avaient tant envie de nous aider. Et c'est quelqu'un qui est considéré comme un guérisseur. Certains l'appellent chaman. Donc il intrigue, il impressionne, il fait peur à certaines personnes dans son département.
Vous, comment vous l'avez rencontré ?
À retour de Compostelle, en fait, je suis passé par le Lot. J'ai rencontré des gens. Et ces gens-là, en voyant ma sensibilité, en me montrant leurs arbres, m'ont dit « Mais Erwan, quand on voit ce que tu fais, on a un gars qui va te plaire dans le Lot, il parle aux arbres. » Alors moi, ça m'a... Ouais, je me suis dit « Ouais, je veux le rencontrer. » Donc ça s'est fait très, très spontanément en fait. J'ai rencontré Pierre Capelle qui m'a accueilli chez lui le temps d'une soirée, puis d'un week-end. Et il m'a montré que j'avais encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre concernant les arbres. Et il a commencé à m'enseigner en fait. Ce jour de présentation, assez vite, il m'a invité dans son jardin, dans son parc. Et il m'a demandé de choisir un arbre. Puis un deuxième, puis voilà. Il n'était pas très content parce que j'arrivais pas à me connecter. C'est quelqu'un qui est peu patient et assez colérique. Et au bout d'un troisième arbre, il s'est passé ce qu'il connaissait déjà avec d'autres personnes. L'arbre a réussi à rentrer en moi. Donc il y a un principe de connexion, il faut être pieds nus, on fait ça l'été en général. Les pieds joints, pieds nus, debout, les mains en connexion avec une partie de l'arbre. Donc lui, son boulot, c'est de créer la connexion, d'aider la personne à lâcher prise, parce que cette connexion, elle amène des perceptions dans les mains, dans le corps, dans le cœur aussi, il y a des émotions qui peuvent monter. Et une fois que l'arbre est rentré, en fait, il y a comme un état d'hypnose qui se met en place, parce qu'on est dans un état de conscience modifié, quand on est sous l'emprise de l'arbre. Et ensuite, c'est un travail de... Comment je dirais ? En fait, l'arbre, il va défaire les nœuds par priorité. On peut avoir des blessures émotionnelles, on peut avoir des blessures physiques. Et l'arbre va interagir sur les endroits les plus blessés.
Ces dernières années, je me suis rendu compte qu'on prenait la nature, on lui a beaucoup, beaucoup pris. On prend. On prend son bois, on prend ses parcelles, on prend sa terre, on construit, on exporte, on est beaucoup dans le prendre, mais on donne pas beaucoup.
Vraiment, faut être humble face à un arbre, si on veut faire une mise à l'arbre. Humble dans le sens où accepter qu'il va pouvoir nous enseigner ou nous transmettre quelque chose. Et c'est une forme d'humilité importante parce que dans bien des cas aujourd'hui, l'être humain se place en haut de la chaîne alimentaire et au-dessus des autres règnes. Alors que dans ce règne-là, de ce point de vue-là, c'est pas du tout le cas. Le minéral, le végétal, l'être humain, enfin, en fait, on est tous au même plan.
S'intéresser aux arbres, c'est donc aussi repenser la société ?
Oui, oui, oui. Ma vision, ouais, c'est une question et une aparté intéressante parce que depuis quelques années, l'arbologie, je m'amuse à faire le miroir entre une société saine, la société dont beaucoup rêvent, et la société d'aujourd'hui, qui est pas très saine dans différents aspects. En fait, mon miroir, l'image qui m'intéresse, c'est si on prend l'exemple des peuples natifs qui étaient pieds nus, bien ancrés. Et ce qui est intéressant dans ces sociétés-là, c'est que toutes les générations étaient un peu mélangées. Et surtout, on avait conscience que les anciens, avec leur grande expérience, pouvaient enseigner les adultes et puis les plus jeunes. C'est un peu à l'image d'une forêt primaire, d'ailleurs, ces peuples-là. Tout le monde est mélangé, il y a un écosystème riche, il y a une grande canopée, il y a une densité. Les lois sont peut-être un peu plus strictes. On pourrait croire que non, mais il y a beaucoup de lois qui régissent un écosystème aussi complet. Mais il y a une harmonie aussi, il y a vraiment une harmonie forte. Alors que si on prend une société d'hommes modernes, qui ne va pas être pieds nus, les jeunes vont être à l'école, ceux qui peuvent travailler, travaillent, et les anciens, c'est l'EHPAD, il y a des cloisonnements dans une société moderne qui ne sont pas du tout chez les peuples natifs, que ce soit les aborigènes, les amérindiens. Et cette forêt moderne, elle nous ressemble un peu, parce qu'une forêt plantée par l'homme, aujourd'hui, ça va être beaucoup la monoculture, il y a une seule espèce. On plante une espèce, on va viser le rendement, la productivité pour le bois, le papier, etc. Enfin, l'agroforesterie moderne n'inclut pas justement ces écosystèmes riches pour avoir une production plus rapide. Et du coup, je fais vraiment le miroir entre les humains et les arbres. L'ancrage et la connexion inter-âge, qui est vraiment la force d'une forêt primaire, alors que dans la forêt moderne, ils sont tout seuls, ils sont isolés, ils sont plus vite malades. Je parle des arbres. Mais voilà, il y a des clins d'œil, quoi. Il y a des... Mon rêve, ce serait d'inviter un petit peu les êtres humains d'aujourd'hui à prendre exemple sur une forêt primaire, une forêt saine, où tout le monde est, où il y a un brassage, justement.
Ouais. Où il y a une mixité, mais aussi où il y a de la communication entre les arbres.
Exactement. Exactement. Dans une forêt primaire, on va retrouver justement cette communication très forte. Alors, comme le dit Peter Volleben dans ses super travaux, c'est vraiment génial ce qu'il a trouvé, c'est la communication racinaire. Par le biais de la mycorhize, donc il y a une symbiose entre les racines de l'arbre et un champignon. Je crois qu'il parle du Wood Wide Web. Donc en fait, il y a des réseaux filamentaires sous nos pieds dans une forêt primaire qui sont très forts, qui sont très actifs et qui permettent aux arbres de communiquer très vite. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a les travaux de Stéphane Boitard aussi qui parlent du champ morphique. Donc les arbres ont un autre réseau de communication qui lui est aérien et non visible. Mais effectivement, dans une forêt primaire, ça va vite, ça communique vite, et il y a une force. Alors que dans la forêt moderne, la communication, elle est lente, les connexions racinaires sont moins là, les parasites ont plus de force, et peuvent gagner plus vite du terrain. Donc voilà, là encore, on peut faire le clin d'œil avec ce qui nous arrive, peut-être à nous, les humains, en ce moment. Si on s'ancrait un peu plus, et qu'on communiquait mieux, on appréhendrait peut-être... les crises, qu'elles soient sanitaires ou économiques, d'une autre manière.